Chers frères et sœurs, ce matin nous sommes invités à un baptême, et pas n'importe lequel, vous l'avez compris, puisqu'il s'agit du baptême du Seigneur Jésus. Juste avant la messe, dans la sacristie, il y avait un grand débat entre les servants d'autel. Pourquoi Jésus avait-il besoin d'être baptisé ? Un servant m'a répondu « pour qu'il devienne chrétien ». Ah ! Nouvelle. Alors, et ça n'est pas sûr que ce soit ça. En tout cas, pour commencer, ce qui est très intéressant, c'est que Saint Luc, en nous plongeant dans cette scène du baptême, nous donne un détail qui n'en est pas un. Il nous dit que juste après le baptême, le Christ priait. Lui aussi était en prière. Et Saint Luc ajoute qu'à ce moment-là, le ciel s'ouvrit. Frères et sœurs, c'est comme une magnifique définition de la prière. Le ciel s'ouvre. L'ouverture du ciel. Le cœur de Dieu qui s'épanche vers la terre, et la terre qui répond à l'appel de son Créateur, de son Seigneur. Voilà ce qu'est la prière, ce dialogue, ce cœur à cœur. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que ce matin, non seulement on sait que Jésus priait, non seulement Saint Luc nous dit ce qu'est la prière, mais il nous dit le contenu de la prière. Il nous dit ce qui se passe dans le secret entre le Père et le Fils. On va entendre ce qui se passe. Ça, c'est extraordinaire. Et là, on entend cette parole du Père, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui je trouve ma joie. Tu es mon Fils bien-aimé. » Ce cri d'amour du Père qui retentit pour le Fils. Et il ne dit pas qu'il l'aime un petit peu, mais il donne tout, en qui j'ai mis tout mon amour. Tout l'être du Père est donné au Fils. Vous voyez, un amour tellement infini, frères et sœurs, qu'on ne peut même pas l'imaginer. Et le Fils, évidemment, va répondre la même chose. Toi, mon Père, comme je t'aime, je mets tout mon amour. Sur la croix, c'est Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. On sent que le Fils, il se jette dans les bras du Père. Et cette puissance d'amour est tellement infinie, frères et sœurs, qu'elle est visible. Qu'elle prend, alors là, on nous dit une forme corporelle, comme une colombe. On est toujours un peu hésitant, maladroit quand on veut parler de l'Esprit Saint, parce que comment figurer l'amour ? C'est compliqué. Mais donc là, une colombe, pourquoi pas ? En tout cas, cette puissance d'amour est une personne divine, tellement c'est grand, tellement c'est infini. On en a une petite image sur la terre. Lorsque deux êtres s'aiment, lorsque l'homme et la femme s'aiment tendrement, qu'ils se donnent totalement, jusque dans leur corps, on dit c'est lorsqu'ils ne sont plus qu'un, qu'ils deviennent trois. C'est l'amour qui prend deux petits bras, deux petites jambes et qui se balade dans la rue. Bah, à une époque, ça a été chacun d'entre nous, voyez-vous. Et donc, voilà ce qui se passe, ce mystère qui se réalise, immense. La question est quand même excellente. Pourquoi Jésus avait-il besoin d'être baptisé ? Pourquoi fallait-il qu'il passe par ça ? Les pères de l'Église eux-mêmes ont beaucoup réfléchi à la question, ces grands premiers chrétiens, théologiens, et plusieurs se sont dit, déjà, c'était pour nous montrer la route. C'est vrai qu'ainsi, il nous montre le chemin. Il a dit « Je suis le chemin », bah concrètement, il nous montre le chemin. Le chemin, ça commence par le baptême. Et puis, il y a un autre intérêt. C'est qu'au baptême, voyez-vous, quand la parole du Père retentit, est-ce que le Père prend la parole pour son Fils à ce moment-là ? Le Fils sait déjà qu'il est le bien-aimé de son Père. Jésus, il savait qui il était. Vous souvenez, les servantes, quand Jésus est au temple et ses parents le cherchent, Marie et Joseph, ils sont morts d'inquiétude, ils se disent « Où est-ce qu'il est passé ?» Ils le cherchent pendant 3 jours. Ça fait beaucoup 3 jours, hein. T'imagines, Adriana, si tes parents te cherchent pendant 3 jours ? Ah, l'inquiétude ! Et puis là, quand ils arrivent, qu'ils retrouvent Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit, Jésus ? « Ne saviez pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Il a 12 ans, il répond avec un aplomb sidérant à ses parents, il sait qui il est. Il est le Fils bien-aimé du Père. Voyez-vous ? Et donc, si la voix du Père retentit, eh bien, ça n'est pas tant pour Jésus que pour les autres. Pour nous, en fait. Pour nous faire bien comprendre qui est Jésus, son identité véritable. C'est pour ça que la voix du Père, qui d'ordinaire s'exprime à voix basse, en chuchotant, en murmurant dans le tréfonds de nos cœurs, on peut dire même dans le silence de nos cœurs, eh bien là, Dieu prend la parole à voix haute pour dire « Mais regardez qui c'est mon Fils bien-aimé. » Cette parole, frères et sœurs, elle n'a pas retenti que pour Jésus. tous ici quasiment, nous sommes baptisés. Eh bien, cette parole du Père a retenti sur chacun de nous le jour de notre baptême. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils préféré, ma fille préférée, parce que c'est un peu le sens de cette parole en grec. Et donc, Dieu tient à chacun de nous d'une manière toute particulière. Ça, c'est bon de le réaliser. Il est venu nous renouveler intérieurement. Mes frères et sœurs, il y a des conséquences. Vous l'avez entendu dans la deuxième lecture. Paul parle de nous en disant que nous sommes un peuple ardent à faire le bien. Ah, alors quand on dit ça, évidemment, tout le monde se dit, mais enfin, il n'y a pas que nous. Dieu merci, c'est le cas de le dire, parce que sa grâce n'est pas limitée par les sacrements, et donc, de bien des manières, l'humanité fait le bien, bien sûr. Mais le chrétien, parce qu'il a été renouvelé par la grâce, parce qu'il est soutenu par la grâce, il a quelque chose qui le pousse et qui l'attire vers le bien avec plus de force, pourvu qu'il soit ouvert à cette grâce, qu'il la laisse agir en lui. Ça veut dire une chose très concrète, frères et sœurs. Ça veut dire que le chrétien ne peut jamais dire « Ah bah oui, mais vous comprenez, tout le monde le fait. Hein, je gruge un peu avec les impôts, mais vous comprenez, tout le monde le fait. » Mais c'est pas possible. Tu es chrétien. Toi, c'est plus grave. Toi, si tu tombes, c'est pas simplement une faute morale. C'est un péché. Tu blesses la relation au Seigneur qui t'a tant donné, qui te donne tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu gaspilles. Et tu te détournes de lui. Alors, vous voyez, frères et sœurs, ça s'applique à bien des domaines. Surtout en ce moment. Je vois des chrétiens aussi qui se déchirent. Pas d'accord sur les sujets d'actualité. Vous les devinez. Et alors, ils me disent, ah bah oui, mais les autres aussi, ils se prennent la tête sur les sujets sanitaires. Eh oui, mais la différence, c'est que toi, t'es chrétien. Et voilà. Et toute cette semaine, j'ai eu dans le cœur cette parole de Jésus qui nous dit, parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. C'est vrai, peut-être que les autres se chamaillent tout. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Et pour quelle raison? Parce que tu reçois ce cadeau de Dieu. Et alors, qu'est-ce que t'en fais de ce cadeau? Vous voyez, ça crée une responsabilité particulière. Du coup, le chrétien, il vit différemment. Et là, c'est le moment de montrer notre différence. Notamment parce que le chrétien garde la joie même dans les épreuves. Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques, pour ses vœux en 2022, il a choisi cette parole de Paul qui dit « Soyez dans la joie, laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie ». Bon, alors, d'abord, si Paul répète, c'est pas parce qu'il rabâche, c'est parce qu'on a besoin de l'entendre deux fois. Voyez, soyez dans la joie. Et il nous dit pourquoi. Parce que c'est pas juste souris-souris, mais c'est pourquoi tu es dans la joie. Le Seigneur est proche, nous dit Paul. Le Seigneur est proche. Est-ce que j'y crois vraiment? Qu'il est là tout près de moi? Et que j'ai à choisir à chaque instant de ma vie? Que je suis au milieu, là, sur la ligne de crête, entre un abîme du mal et la présence de Dieu? Entre le néant et Dieu. Et je dois choisir. Mais Dieu est proche, toujours. Même, voyez, dans le pire des enfers sur la terre, même pour Maximilien Kolb, dans son camp de concentration, il arrivait encore, dans cet enfer, à percevoir de la lumière, à percevoir que Dieu était proche. Et Dieu est proche toujours. Donc cette joie, frères et sœurs, on n'a pas d'excuse. Quelque part, elle devrait ne jamais nous quitter. Quelles que soient les circonstances et les épreuves, le Seigneur est proche. Et Paul continue en disant « Que votre sérénité, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. » Alors voilà, en entendant ça, je me suis mis à rêver. Je me suis dit, ce qui serait magnifique, c'est que durant cette année 2022, dans toute la région du Crétois, on entende les gens qui disent « Alors ces chrétiens, ils sont extraordinaires. » Parce que justement, incroyable, ils ne se chamaillent pas. Ils ne se disputent pas sur les masques, ils ne parlent pas du vaccin, ils vivent unis en frères et sœurs, c'est magnifique. Vous voyez le miracle? Mes frères et sœurs, le miracle est à portée de main, parce que Dieu nous le donne ça. Cette unité, il nous la donne. C'est à nous de répondre, c'est à nous de dire oui. Si chacun de nous ici dit oui, c'est gagné. Ça dépend de chacun de nous, vous voyez? C'est ça qui se joue. Et je voudrais vous dire, du coup, c'est vrai, ce que nous allons vivre risque d'être très difficile. Faut être honnête. Là, on est dans les vœux, là, on dit bonne année, machin, très bien. Mais si ça se trouve, ça va être une catastrophe. Et alors? Et alors? Je me souviens d'un évêque qui rentre le soir journée épouvantable pour lui. Il arrive le soir, il dit à son bras droit, « Qu'est-ce que ça a été difficile cette journée ?» Son bras droit le regarde et lui dit, « Vous inquiétez pas, demain ce sera bien pire. » Et vous voyez, frères et sœurs, ça m'a marqué. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la distinction entre l'espoir et l'espérance. L'espoir humain, c'est que demain ce sera mieux. Mais peut-être pas. Peut-être que, voilà, peut-être que ce sera terrible. L'espérance, c'est autre chose. C'est le Seigneur est proche. C'est ça notre espérance. C'est là, c'est en lui qu'on met notre ancre. Et du coup, ça c'est vrai. Ça c'est tangible. Et ça sera toujours là. L'espérance ne déçoit pas. Par contre, l'espoir, il est franchement parfois sévèrement déçu. L'espérance, elle, ne déçoit pas. Le Seigneur est proche. C'est toujours vrai. Et donc, frères et sœurs, il est possible qu'on vive des choses très difficiles, vraiment, sincèrement. C'est même probable. Et alors, du coup, soyons inventifs dans l'ordre de la charité. Pour vivre quelque chose de beau les uns avec les autres, soyons inventifs. Par exemple, je vous suggère une petite idée qui m'est venue comme ça en passant. Je me disais, tiens, le dimanche, de temps en temps, on pourrait arriver avec un petit cadeau qu'on fait à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la communauté. Sympa ! Comme ça, c'est Noël toute l'année dans notre communauté, vous voyez ? Et vous dites, tiens, allez, aujourd'hui, je fais mon petit cadeau. Eh bien, pourquoi pas ? Voilà, une idée, vous en trouvez d'autres, tout ce que vous voulez, mais soyons inventifs. Et puis, en offrant le cadeau, c'est l'occasion d'une parole. Et vous savez combien une parole de réconfort, de consolation, ça peut être décisif, important dans une vie. Vous l'avez entendu dans le prophète Isaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. » Une parole de consolation. Je vous partage ça. Il y a quelques semaines, je rencontrais un père de famille en grande difficulté. Et en discutant avec lui, au bout d'un moment, je lui dis « Mais est-ce que vous pensez au suicide ?» Il réfléchit, au bout d'un moment, il me dit « Oui. » On en parle, il s'en va. 3 semaines après, il revient, il me dit « En fait, c'est grâce à votre question » que je ne me suis pas suicidé. Vous imaginez, frères et sœurs, une question, une parole. Ça paraît peu de choses, hein. Et pour tout, ça peut tout changer. Ça peut même sauver des vies. Et c'est pour ça que je nous encourage, durant cette année, dans ce contexte, à être encore plus attentif et à se dire, on a voulu me laver le cerveau en me disant, surtout prends soin de toi. Et ben non, moi je vais d'abord prendre soin des autres. Parce que c'est ça qui nous fait vivre et c'est ça le sens de la vie. Ce qui distingue le chrétien quand il va bien, vous le savez, c'est que le « tu » passe avant le « je ». Voilà, c'est ça qu'on a à vivre. Seigneur, nous te confions toute notre paroisse durant toute cette année. Viens la garder unie sous ton regard. Garde-nous de toutes les tentations de division ou des tentatives cyniques de nous opposer les uns aux autres. Toi qui es le bon berger, qui fait paître ton troupeau, dont le bras rassemble les agneaux, qui les porte sur ton cœur et qui prend soin de la brebis qui allaite. Amen.